RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, le programme sera continué avec l'histoire d'aujourd'hui et modernisée. La revue suivante, magazine culturel et apprendre l'Indonésien. Avant de terminer cette émission, nous allons également présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Serviteurs, bonsoir. Bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le ministère des Affaires étrangères a libéré 6 citoyens indonésiens de Benghazi. Le vice-président Yusuf Kalla a assisté aujourd'hui au serment de nouveaux juges en chef de la Cour constitutionnelle. TNI et la police indonésienne garantissent un climat des affaires propice. Le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales développe une centrale électrique marine. Lampung organise l'exposition internationale de café et Tangfang. L'Indonésie a enregistré une transaction de 13,4 milliards rupiah à BITM 2018. Voici le journal complet. 6 citoyens indonésiens qui ont été otages du groupe armé à Benghazi en Libye pendant environ 6 mois ont été libérés et rapatriés avec succès par le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie. Les 6 citoyens indonésiens ont été remis à sa famille à la cantine diplomatique au ministère des Affaires étrangères à Jakarta lundi le 2 avril par la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi. Retno Marsudi a mentionné qu'il travaille comme équipage de bateau de pêche Batang Pavillon Malte.
Pada hari ini kami mewakili pemerintah Republik Indonesia.
Ce jour-là, nous représentants du gouvernement de la République d'Indonésie venons de libérer l'équipage des citoyens indonésiens qui ont été retenus en otage à Benghazi en Libye pendant environ 6 mois. Je voudrais mentionner une fois de plus que la prise d'otage a eu lieu le 23 septembre 2017. Ces 6 membres d'équipage des citoyens indonésiens travaillent sur le navire Salvator 6 de Malte. Ils ont été capturés par des milices dans la mer de Benghazi à 72 milles du continent de Benghazi. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a été informée de la 6e prise d'otage des équipages du navire de la citoyenneté indonésienne le 28 septembre 2017. Depuis ce moment, le gouvernement a pris divers contacts, y compris avec les armateurs et les familles des équipages des navires indonésiens. Elle a ajouté que le processus de libération des otages n'est pas facile, car la zone est une zone de conflit. Les obstacles qui se posent non seulement des problèmes de sécurité, mais aussi des problèmes politiques, car Benghazi, qui se trouve à 1020 km de la capitale libyenne, Tripoli, contrôlée par l'anti-gouvernement. La libération des 6 citoyens indonésiens, selon Retno Marsudi, ne peut pas être dissociée de la coopération du ministère indonésien des Affaires étrangères, de l'Agence nationale de renseignement et de l'ambassade de la République d'Indonésie à Tripoli. Le vice-président Yusuf Kalla, aujourd'hui, a assisté au serment de nouveau juge en chef de la Cour constitutionnelle Anwar Ousmane et son adjoint chef Aswanto pour la période de mandat 2018-2020. Anwar Ousmane a remplacé l'ancien président de la Cour constitutionnelle Arif Hidayat qui a purgé deux périodes, tandis qu'Aswanto remplace Anwar Ousmane. Le juge en chef de la Cour constitutionnelle Anwar Ousmane a déclaré qu'il remplirait les fonctions de chef de cette institution judiciaire finale avec équité, ainsi que maintenir le code de déontologie du juge de la Cour constitutionnelle. Le président de l'Assemblée consultative du peuple, Zulkifli Hasan, a assisté également lundi à la prononciation sous serment du nouveau président de la Cour constitutionnelle, Anwar Ousmane, à Jakarta. Zulkifli Hasan a déclaré à la presse qu'il pensait qu'Anwar Ousmane était capable de bien remplir son devoir. Selon Zulkifli, le plus grand défi du président de la Cour constitutionnelle est de poursuivre devant le tribunal le différend sur l'élection régionale 2018 et l'élection présidentielle de 2019 qui nécessite une prise de décision équitable. Les défis, bien sûr, il y aura l'élection régionale, l'élection présidentielle. Nous donnons notre soutien pour le succès, nous prions et je crois qu'il est capable de bien remplir son devoir. Anwar Ousmane a été élu comme président de la Cour constitutionnelle pour la période 2018-2020, remplaçant Arif Hidayat par le vote de 9 juges constitutionnels. Tous les juges constitutionnels, sauf Arif Hidayat, ont le droit d'être élu et d'élire, à savoir Anwar Ousmane, Maria Farida, Wahiduddin Adams, Aswanto, Igde Pasek Palguna, Suhartoyo, Manhan Sitompul, et Saldi Isro. Le commandant en chef de l'armée, le maréchal TNI Hadi Cahyanto, et le chef de la police indonésienne, le général Tito Karnavian, assurent le climat d'affaires favorable pour les années politiques 2018 et 2019. Cela a été dit, Tito Karnavian et Hadi Cahyanto au 2500 membres des deux institutions du pays au campus de l'Académie de police Semarang, Jawa Central, lundi. Les élections locales ou pilkada simultanées sont les processus de démocratie ordinaire qui ne doivent pas être craintes. Et en 2019 est l'année des élections nationales pour déterminer le leadership national 2019-2024. L'une des clés du succès de Pilkada est la solidité de TNI et la police indonésienne qui est soutenue par la société. Le commandant en chef de TNI, Hadi Cahyanto, a affirmé l'engagement de TNI et la police indonésienne à rester neutre dans l'affaire démocratique. Les gens ne doivent pas s'inquiéter, la mise en place de ce parti démocratique est sûre et pacifique. Le TNI sera toujours prêt à soutenir les mesures de la police indonésienne dans la réalisation d'élections pacifiques. Le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales est en train de développer une centrale électrique marine ou PLTAL dans le détroit de la Rantuka, à l'est de Nusa Tenggara. En tant que pays archipélagique, l'Indonésie a une topographie idéale pour développer l'énergie à partir des courants océaniques. Le détroit entre les deux îles génère le potentiel énergétique assez grand à utiliser comme la source d'énergie alternative basée sur une nouvelle source d'énergie renouvelable. Le directeur général de l'énergie renouvelable et de la conservation de l'énergie, Rida Mulyana, a déclaré que son bureau avait examiné l'emplacement du plan de développement d'une centrale électrique marine PLTAL dans le détroit de la Rantuka, à l'est de Nusa Tenggara. En tant que pays archipel, l'Indonésie a beaucoup de détroits étroits qui indiquent des courants océaniques potentiels à développer comme dans le détroit de la Rantuka. Lampung tient une exposition internationale de l'industrie de transformation du café dans le complexe du gouvernement de la résidence de Prince Sewu, Lampung, du 3 au 5 mai 2018. Le directeur général des activités, qui est également le directeur de PT Kreasi Primatama Indonesia, Bayu Robiansyah à Bandar Lampung, a déclaré mardi que l'exposition de Coffee Mart 2018 était la première exposition tenue en Indonésie. Les expositions que beaucoup ont précédemment tenues étaient les expositions de détails sur le café et la concurrence de barista. Mais maintenant, il y a une exposition supplémentaire sous la forme d'une exposition de machines de traitement de café et une explication sur la façon de l'utiliser. Selon Bayou, l'événement est soutenu par le gouvernement provincial de Lampung, le gouvernement local, les agences concernées, les entreprises engagées dans le secteur langue internationale du café. L'un d'entre elles, le groupe Buchler d'Allemagne, confirmant 2018, va coopérer également avec une association de café indonésie, entre autres, l'Association des exportateurs et des industries de café indonésien, AEKI. L'exposition réunira plus de 300 acteurs de l'industrie du café, locaux et internationaux. L'industrie touristique indonésienne a réussi à enregistrer des transactions de vente d'environ 13,4 milliards rupiah au Vietnam International Travel Mart, VITM 2018, au Centre international d'exposition de Hanoï, qui s'est tenu du 29 mars au 1er avril 2018. La jointe députée au développement du marketing en régional en du ministère du Tourisme, Masruro, a déclaré à Hanoï lundi que pendant l'exposition de 4 jours, la transaction totale a augmenté de 257% de l'objectif initial d'environ 6,1 milliards rupiah. Masruro a également déclaré que la transaction a atteint 2669 paquets qui consistaient en une transaction directe d'une valeur de 724 millions rupiah et une transaction potentielle d'environ 12,7 milliards rupiah. Il a ajouté que la croissance économique du Vietnam est censée avoir un impact sur la capacité croissante des gens à voyager. C'est une occasion pour l'Indonésie d'attirer un candidat touriste du Vietnam. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc le commentaire ayant pour le titre l'élection du nouveau chef de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a tenu l'élection de son chef lundi le 2 avril. Cette élection est de remplacer le mandat du chef de la Cour constitutionnelle au cours de la période 2013-2018, Arif Hidayat. La Cour constitutionnelle est la première ligne de l'application de la loi dans le domaine du droit. Sa tâche est de surmonter les problèmes liés à la législation et à la médiation des différents des élections générales et des élections du chef régional ou pilkada. L'existence de la Cour constitutionnelle, qui a été formée après la chute du Nouvel Ordre, a donné de nouveaux horizons en matière de la législation et de constitution en Indonésie. Le juge en chef de la Cour constitutionnelle est une position importante pour surveiller la constitution en Indonésie, qui est libre de l'influence de l'exécutif et du législatif. L'élection du chef de la Cour constitutionnelle pour la période 2018-2020 est faite par le vote en session plénière du juge. Tous les juges de la Constitution, Anwar Usman, Maria Farida, Wahiduddin Adams, Aswanto, I. Gede Pasek Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, et Saldi Isro ont le droit d'être votés et de voter, sauf Arif Hidayat qui a seulement le droit de voter et ne peut plus être président de la Cour constitutionnelle car il a été élu à deux reprises comme président de la Cour constitutionnelle, à savoir en 2015 et 2017. En relation avec l'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Mahfoud MD, espère qu'il y aura une nouvelle percée dans le processus. Cela était jugé nécessaire pour rétablir l'autorité de la Cour constitutionnelle qui avait été abandonnée lorsque plusieurs de ses présidents étaient impliqués dans l'affaire. La présence de la Cour constitutionnelle pour les trois prochaines années est cruciale car elle jouera un rôle dans la solution des conflits de l'élection régionale en 2018 et des conflits dans l'élection présidentielle et législative en 2019. Elle nécessite donc une grande concentration, neutralité et impartialité des organisations, institutions, des partis politiques jusqu'à l'exécutif et législatif. La Cour constitutionnelle doit être indépendante, juste et honnête dans ses décisions. Les juges de la Cour constitutionnelle sont très spéciaux, contrairement aux juges des autres tribunaux. Les juges de la Cour constitutionnelle ont leur propre indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions. Le juge en chef de la Cour constitutionnelle n'est pas une position qui peut dicter 9 membres des juges. C'est pourquoi le poste de juge en chef de la Cour constitutionnelle n'est pas facile, car il doit être capable de créer l'harmonie et la compacité des juges dans la prise de décision, en particulier dans le maintien de l'état unitaire de la République d'Indonésie et Pancasila. Lors de l'audience du lundi le 2 avril à 15h, par le vote de 9 juges de la Constitution, Anwar Usman a été élu président de la Cour constitutionnelle de période 2018-2020. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 3 avril 1922, Joseph Staline est devenu le premier secrétaire général de la Parti communiste de l'Union soviétique. Joseph Staline était le chef de l'Union soviétique à partir du milieu des années 1920 jusqu'à sa mort en 1953. En tenant la poste de secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, il est devenu le dictateur du pays. Il était l'un des 7 premiers membres du bureau politique qui a été fondé en 1917 pour gérer la révolution bolchevique en même temps que Lénine, Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Sokolnikov et Bubnov. Sous la direction de Staline, l'Union soviétique est changée de la société paysanne à la superpuissance industrielle et militaire. Mais il est responsable de la terreur et des millions de ses propres citoyens sont morts pendant son règne brutal. Le 3 avril 1933, l'avion piloté par les Anglais survolant le sommet de l'Everest pour la première fois. Tout cela grâce au parrainage du milliardaire britannique Lady Houston, une ancienne danseuse. Everest est situé dans l'Himalaya et le plus haut sommet du monde avec une altitude de 8848 mètres. Depuis le début du siècle dernier, marcher à pied est devenu l'un des plus grands défis de centaines d'alpinistes. Le 3 avril 1948, le président Harry Truman a signé le plan Marshall, un programme d'aide économique étrangère appelé le plan Marshall. L'AC a été nommé en accord avec le secrétaire d'État américain George C. Marshall. Ce programme a consacré 13 milliards de dollars américains à l'aide de l'Europe en 1948 et 1951 afin de la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Le programme vise également à sauver les États-Unis d'une récession d'après-guerre en fournissant un vaste marché pour les produits américains. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vasi Modernisi, intitulé Pancasila devient l'école de l'ordre de la vie de la nation. L'Indonésie est un pays avec de divers groupes qui peuvent vivre ensemble sans détruire l'ordre de la vie. L'Indonésie est le meilleur endroit où la pluralité est maintenue au milieu de l'unité. Cela a été déclaré par le président de la Commission constitutionnelle, M. Zulkifli Hasan, à la session plénière de l'inauguration du nouveau vice-président de l'Assemblée au Parlement à Jakarta, 26 mars, cité par mpr.co.id. Zulkifli Hasan a déclaré que MPR devrait être le premier garde pour prouver la grandeur de l'Indonésie avec Bhinneka Tunggal Ika. Il invite aussi trois nouveaux vice-présidents de l'Assemblée consultative du peuple ou MPR tels que Ahmad Muzani du parti Gerindra, Ahmad Basar du parti PDI Perjuangan et Abdul Muhaimin Iskandar du parti PKB à se joindre à renforcer la socialisation de Pancasila. Selon Zulkifli Hasan, Pancasila devrait être introduit non seulement comme un système de valeurs, mais aussi comme un fondement et un guide de comportement de la vie dans la société. Pancasila doit être présent comme quelque chose d'important, nécessaire, amusant, cool et concret, comme un guide de la vie quotidienne de tous les gens indonésiens. L'ancien vice-président de Nahdlatul Ulama, As'ad Said Ali, à Jakarta, cité par Antara, a déclaré que l'idéologie transnationale était une menace pour Pancasila depuis longtemps jusqu'à présent. Dans les années 50, le Parti communiste indonésien, ou PKI, veut changer le percept de Dieu avec la liberté de religion et de croyance, ce qui signifie que les gens sont libres également pour la non-religion et non-croyante. À l'ère de la réforme, il y a des partis qui veulent faire de l'Indonésie un État laïque, tandis que d'autres veulent faire l'Indonésie un pays religieux. Selon As'ad, Pancasila est une unité entre la religion et la culture. Cela signifie qu'avec les cinq préceptes, l'Indonésie n'est pas un État laïque et une théocratie, mais un pays religieux. Et selon As'ad, Pancasila signifie la coopération mutuelle, harmonieuse dans la région et dans la culture. Avec Pancasila, l'âme du peuple indonésien devient un être humain harmonieux et tolérant. Le pouvoir de Pancasila, qui est une idéologie qui peut abriter la nation indonésienne, devrait être reconnaissant car il y a encore des pays qui n'ont pas encore trouvé une idéologie appropriée. Chers amis, c'était Modernisi de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Serviteurs, bonsoir. Bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le ministère des Affaires étrangères a libéré 6 citoyens indonésiens de Benghazi. Le vice-président Yusuf Kalla a assisté aujourd'hui au serment de nouveau juge en chef de la Cour constitutionnelle. TNI et la police indonésienne garantissent un climat des affaires propice. Le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales développe une centrale électrique marine. Lampung organise l'exposition internationale de café. Et Tangfang, l'Indonésie a enregistré une transaction de 13,4 milliards rupiah à BITM 2018. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous. On se retrouve dans la rubrique du magazine culturel aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à connaître les gîtes traditionnels de Maluku. Restez donc ici avec nous à RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie. Ce n'est pas seulement par langue courte, vous pouvez également nous écouter par www.voinews.id. Chers auditeurs, les habitants de Maluku connaissent un jeu traditionnel unique qui est étroitement lié à la nuance mystique, s'appelle le bambou fou. On dit que le jeu de bambou fou, dont le vrai nom est Baramesawel, a déjà existé avant la propagation de l'islam et du christianisme dans la terre de Maluku. La façon de jouer au bambou fou est très simple. Les joueurs ont juste besoin de câliner et de maintenir le taux de bambou qui s'envole selon la volonté du manieur. Avant de commencer le jeu de bambou fou, le manieur chargé de brûler de l'encens qu'il portait à l'aide d'un récipient de coquilles de noix de coco. La fumée de l'encens brûlant est ensuite insérée dans les bâtons de bambou. Ce processus est important dans le jeu traditionnel de bambou fou parce qu'il est une tentative d'inviter quelque chose de magique pour entrer et déplacer le bambou. Quand le manieur a réussi à entrer quelque chose invisible dans le bâton de bambou, alors le bambou se déplace tout seul. Les joueurs doivent serrer et tenir le taux de bambou sous le contrôle du manieur. Tout au long du jeu, la manière contrôle toujours le bambou en criant de mantra « Hey, Baramesawel ». Le bambou n'arrêtera pas de bouger jusqu'à ce que le manieur lui ordonne de s'arrêter. Chers auditeurs, dans la société de Maluku qui est encore traditionnelle, l'aura mystique de ce jeu est grandement ressentie car les gens qui peuvent jouer ne sont pas des gens au hasard, mais ceux qui ont été élus. Les joueurs doivent être torse-nus et porter des attributs rouges, y compris sur le pantalon et le bandeau. Ce jeu se déroule avec un accompagnement musical. Plus vite la musique, plus vite le mouvement du bambou. Généralement, ce jeu traditionnel est joué par 7 personnes, ou peut-être plus, ça dépend de la longueur du bambou utilisé. Le bambou sélectionné dans ce jeu n'est pas également arbitraire. Le bambou à utiliser est pris dans la forêt par la rituel spécial. Le bambou sélectionné a habituellement un diamètre de 8 à 10 cm et une longueur de 3 mètres ou plus. Ensuite, les deux extrémités du bambou sélectionné sont attachées avec un tissu et traitées comme des êtres humains. Le jeu de bambou fou est l'une des richesses de la tradition appartenant à l'archipel, l'un des jeux folkloriques qui vient de la magnifique culture de Maluku. Chers auditeurs, voilà l'édition du magazine culturel d'aujourd'hui dont le sujet est le bambou fou, le jeu traditionnel de Maluku. Demain, nous retrouverons avec les autres sujets intéressants. Au revoir.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir tous les auditeurs, on se retrouve dans l'émission Apprendre la langue indonésienne, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler en bahasa Indonesia. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie avec l'Agence du développement et du renouvellement du langage, le ministère de l'Éducation et de la Culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est membeli tiket, ou en français on dit acheter un ticket. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en bahasa Indonesia dont le titre est membeli tiket, ou en français est acheter un ticket. Mira, permisi. Tiket untuk satu orang. Ani. Baik, satu tiket Rp216.000. Mira. Oke, ini uangnya. Ani. Terima kasih. Ini tiketnya. Mira. Selanjutnya, saya harus kemana? Ani. Silakan masuk melalui pintu itu. Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. C'est membeli tiket, ou en français, acheter un ticket. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Tiket untuk satu orang. Tiket untuk satu orang. Ou en français, ticket pour une personne. Satu tiket Rp216.000. Satu tiket Rp216.000. Ou en français, un ticket coûte Rp216.000. Selanjutnya, saya harus kemana? Selanjutnya, saya harus kemana? Ou en français, ensuite, où je dois aller? Silakan masuk melalui pintu itu. Silakan masuk melalui pintu itu. Ou en français, s'il vous plaît, entrez par cette porte-là. Quand vous êtes au comptoir de billetterie, vous pouvez dire le nombre de tickets que vous allez acheter. Par exemple, permisi, tiket untuk 3 orang. Permisi, tiket untuk 3 orang. Ou en français, excusez-moi, le ticket pour 3 personnes. Si vous ne savez pas où vous devez aller ensuite, vous pouvez demander selanjutnya, saya harus kemana? Selanjutnya, saya harus kemana? Ou en français, ensuite, où je dois aller? Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation. Mira, permisi, tiket untuk satu orang. Ani, baik, satu tiket Rp216.000. Mira, oke, ini uangnya. Ani, Terima kasih. Ini tiketnya. Mira, selanjutnya saya harus kemana? Ani, silakan masuk melalui pintu itu. Chers amis, voilà l'émission d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui dont le sujet est membeli tiket ou en français acheter un ticket. J'espère que cette édition pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. Pour un exercice, envoyez votre enregistrement vocal en bahasa Indonesia à notre adresse email à voi@voinews.id. voi@voinews.id. Il y aura un prix intéressant pour un expéditeur sélectionné. L'exercice est saluer d'abord et puis mentionner votre nom, votre pays, votre adresse et votre nourriture préférée. Par exemple, selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya, nasi goreng. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup de votre attention et à demain.
Pelangi Nada, le magazine musical vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs, voici le magazine musical qui présente les musiques pop et traditionnelles de l'Indonésie. Pour l'édition de ce soir, nous vous sélectionnons les chansons traditionnelles de Jambi, l'une des provinces d'Indonésie située sur la côte est de Sumatra. Pour ouvrir notre rencontre, voici la première chanson intitulée « Bruine de pluie » de Shaiful. Bonne écoute.
Jangan lupa
chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Shaiful intitulée « Bruine de pluie ». En plus des instruments de musique moderne, l'accompagnement de tambour dans cette chanson semble tout à fait dominant. Cette chanson raconte d'un pêcheur qui est confus à quel endroit où le filet doit être jeté à cause de bruines de pluie, les poissons sont difficiles à obtenir. La chanson est faite comme un pantoum réciproque. Pour ne pas nier, la langue et la culture de Jambi ont une forte influence malaise, parce que la langue malaise de Jambi ou Basso Jambi est l'une des branches de la langue austronésienne parlée dans la région de Jambi, la partie sud de la province de Riau. Bon, secrétaire, écoutons maintenant l'autre chanson traditionnelle de Jambi intitulée Malang Badan de Shaiful et Sri Dewi.
Bye.
sanctions ont tous les malangbaden racontent la vie avec tous ces problèmes. Presque la même que la chanson précédente, sur cette chanson, Scheffel avec son duo Sri Devi chante la chanson avec des poèmes comme Pantoun. Cette chanson est également accompagnée d'instruments de musique moderne avec l'accompagnement d'instruments de musique à tambour dominant. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les dernières chansons traditionnelles de Jambi intitulées Maraju Suhang de Scheffel et Sri Devi et Serampang Lapan de Scheffel et Afuk Sanusi. Bonne écoute, à demain.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
C'était des chansons indonésiennes, ainsi ça termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4 et 5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.